Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau carnet de région, votre magazine d'actualité régionale produit par plusieurs radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Au sommaire, à Pollens, sous fond de problèmes géopolitiques, 120 salariés d'une entreprise héraultaise se retrouvent en difficulté. Un sujet proposé par Alain Mendès de Radio Lodev. Le département de l'Aude se lance dans une expérimentation unique dans la région pour répondre au problème de la désertification des campagnes. Plus d'explications dans ce carnet de région avec Nathalie Dessos d'RCF Pays d'Aude. Agriculture avec le président national des jeunes agriculteurs en visite en Lozère où il a été question d'installation. Un sujet de Ludovic Thérol de 48 FM. Nous irons ensuite avec Rémi Goujon de Radio Escapade à La Salle en Cévennes, petite commune d'un millier d'habitants qui noue une relation particulière avec le 7e art. Les films documentaires, il en sera également question avec Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault qui s'est intéressé à un documentaire diffusé actuellement sur la TNT et qui met en lumière des familles gitanes, agatoises et biterroises.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Depuis 10 jours, les 120 salariés d'Iri France à Pollens dans l'Hérault sont au chômage partiel. Le directeur a même débuté une grève de la faim jeudi après une grande manifestation de soutien des élus locaux. Tous demandent un déblocage administratif au plus haut sommet de l'État qui empêche la société de se développer à l'export, notamment au Moyen-Orient et en Syrie, alors que les marchés existent. Mais il faut pour cela l'accord de la COFAS, l'organisme qui gère pour l'État les garanties à l'export des entreprises françaises. Et comme le principal actionnaire de l'entreprise, le milliardaire libano-syrien Osman Ayadi, est jugé trop proche de la famille du dictateur syrien, l'exportation est bloquée, mettant en difficulté les salariés. Écoutez le maire de Pollens, Claude Vellerot, micro d'Alain Mendès de Radio Lodève.
Ouais, il y a vraiment un très très gros soutien de tous les élus du territoire. Ça a dépassé le territoire du Clermontais, puisqu'il y avait des gens de Bessan, des gens d'Acte, il y a des gens qui se sont mobilisés d'un peu partout. Je crois que c'est à la mesure de l'enjeu. Iri France est une entreprise de pointe qui a des brevets spéciaux, qui a fait vivre des générations et des générations. Actuellement, il y a 120 employés. Une fermeture d'Iri France, ça serait dramatique pour tout le territoire, pour la basse vallée de l'Hérault. Je pense qu'on a vraiment un tissu économique à reconstruire et il faut que cette entreprise continue à vivre. D'autant que, comme l'a dit le directeur, on ne demande pas d'argent, on demande simplement qu'au niveau de l'exportation, on soit sur un pied d'égalité avec les autres entreprises. Donc le blocage, bon, nous le dit pas, personne n'ose nous le dire, mais comme a dit le monsieur qui a parlé du délit de faciès, on sent que la personnalité, enfin la nationalité de monsieur Ousmane Haïdi a l'air de déranger. Commandeur de la Légion d'honneur, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un qui a une passion, qui est prêt à continuer et d'investir dans l'entreprise. Donc il faut que le verrou COFAS saute. Il est libanais, syrien. C'est quelqu'un qui était propriétaire de l'hôtel du Royal Monceau. C'est quand même quelqu'un qui est bien intégré dans la société française. Alors bon, on nous dit qu'aussi dans le cadre de la vente de l'hôtel Royal Monceau au Qatari, qui viennent de le lui acheter, mais il a gardé une suite dans laquelle nous avons été reçus hier. Il y a eu un accrochage particulier avec Monsieur Montebourg dans la transaction. Il y en a marre de ces politiques qui, parce qu'ils ont un pouvoir, règlent des comptes avec les uns, avec les autres. C'est pas ça la France, c'est pas ça qui donne du travail à des gens. Après c'est dramatique parce que les ouvriers, après on a de la suspicion, est-ce que notre directeur est un bon directeur, est-ce que c'est pas sa faute, donc on n'en sort plus alors que le directeur il porte le dossier comme un fou. Bon, on a été écouté hier, hein. Comme je disais, il y a la lumière dans le couloir. Bon, j'espère que ce n'est pas une minuterie. On sent qu'il y a un frémissement. Donc aujourd'hui, il y a tous les sénateurs qui sont là-haut, il y a des députés. Je pense que s'ils mettent encore de la pression, ça va peut-être débloquer. Après, on leur a dit, mais en quoi ça vous gênerait le gouvernement de lever le verrou COFAS? Mais enfin, on ne joue pas avec les vies des gens comme ça. Il faut savoir qu'il y a quand même des employés qui ont des saisies sur salaire. Là, ils sont payés à 70%. On leur a dit hier, on leur a dit, nous, on a 2-3 jours où on peut avoir un peu une maîtrise de la situation. Parce que bon, moi, j'ai vécu là 3-4 jours avec eux. Quand ils sont rassemblés sur le site, qu'ils parlent entre eux, qu'ils tournent en rond, qu'ils n'ont pas de réponse, ça commence à monter la tension. Pour l'instant, on contient. Parce qu'on est là, parce qu'on est avec eux, parce qu'il y avait cette échéance d'aujourd'hui. Mais si ça dure 2-3 jours, nous, après, en tant qu'élus, on ne sera peut-être plus maître de la situation.
Et sur le terrain, les employés ont du mal à comprendre une situation qui les dépasse, comme Jean-François Cornacchia.
Airifrance donc est une entreprise qui est sur le site de Pologne depuis 1963. Bon, c'est une entreprise dans laquelle effectivement ont travaillé de nombreuses personnes de la région, mais également de Fépulin, puisque moi personnellement donc, je suis originaire de Sète, 40 km d'ici, ça fait 30 ans que je travaille ici, donc si vous voulez, voilà, l'entreprise elle dépasse le cadre purement polonais. Quoi, voilà. C'est pas un rapport de force, j'allais dire, des salariés envers ni les patrons ni l'actionnaire, c'est uniquement un mode de soutien, de façon à peser effectivement dans ces décisions parisiennes qui ne se prennent pas, alors qu'aujourd'hui, bon, Airifrance a des clients, a un marché, a de l'activité à faire, et aujourd'hui, on est entravé dans le développement à l'international.
Voilà. C'est vraiment de l'incompréhension, de l'inquiétude aussi, forcément.
Bien sûr, de l'inquiétude, puisque bon, une entreprise qui ne peut pas travailler correctement à l'international, quand le marché français devient difficile, comme c'est actuellement le cas, puisque bon, le monde agricole donc aujourd'hui souffre et donc a des difficultés, donc forcément leur capacité d'investissement est réduite. Forcément, l'activité française baissant et l'activité internationale étant entravée par ces décisions, il y a effectivement de l'inquiétude chez les salariés. Si la décision ne se débloque pas, l'entreprise ne pourra plus assurer effectivement le quotidien, forcément, ne pourra plus honorer ses commandes. Et bon, bien évidemment, si les commandes ne sont plus honorées, on ne facture plus, on ne rentre plus d'argent, et voilà.
Est-ce que ça peut aller encore monter d'un cran en fonction des décisions ou pas? On a vu Claude Valero qui a expliqué, qui a appelé au calme, lui.
Si vous voulez, Claude Valero appelle au calme, et aujourd'hui, l'état d'esprit de l'ensemble des salariés colle vraiment à ça. Bon, maintenant, effectivement, bon, on n'est que des hommes, et bon, effectivement, si les décisions promises sous quelques jours ne sont pas prises, on va réfléchir entre nous, toujours dans la concertation et, j'allais dire, le calme, mais forcément, il faut qu'on se fasse vraiment entendre et surtout qu'il y ait une décision, quelle qu'elle soit, encore une fois, soit prise.
Et on le disait vite.
Et très vite, oui.
Un sujet réalisé par Alain Mendès de Radio Lodève. Le département de l'Aude se lance dans une expérimentation unique dans la région pour répondre au problème de la désertification des campagnes. Ils sont 11 départements en France à démarrer un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public. Reportage de Nathalie Dessos d'RCF Pays d'Aude.
Maintenant que les départements sont nouvellement découpés avec les intercommunalités moins nombreuses qu'avant et plus puissantes, eh bien l'État français va leur confier une mission spéciale, lutter contre la désertification des campagnes, relancer donc dans les campagnes les services de proximité. En France, ce sont 11 départements qui se lancent dans cette expérimentation, et notamment le département de l'Aude, département réputé par sa grande ruralité. Quel est ce projet en clair? André Viola, président du Conseil Général.
Alors oui, nous sommes parmi les 11 départements pilotes pour élaborer un schéma d'accès des services au public, c'est-à-dire les services publics classiques que l'on connaît, mais aussi des services au public marchands, par exemple l'accès à des opérateurs comme la CAF, la MSA. On a des crèches dans chaque intercommunalité, mais parfois elles ferment au même moment, pendant les vacances scolaires l'été, pourquoi pas imaginer des roulements entre crèches, il y a quand même moins d'enfants à ce moment-là, mais en mutualisant et en tournant, on pourrait apporter des réponses aux parents. Également, il y a ce qu'on appelle les relais de services publics. Il y a 5 intercommunalités qui ont expérimenté cela. Eh bien, avec un agent qui est formé par ces opérateurs, ils peuvent donner, je dirais, des réponses de base sur des questions d'allocation familiale, de recherche d'emploi, de retraite. Hein. Et si c'est plus complexe, eh bien, l'agent de la communauté de communes a des interlocuteurs privilégiés dans toutes ces institutions, ce qui permet d'avoir une réponse beaucoup plus rapide que si l'administré, l'usager, essayait d'avoir l'info de lui-même directement. Et puis, il y a bien sûr Internet, la visioconférence qui peut être organisée.
André Viola, président du Conseil Général, un des élus très motivés par la lutte contre la désertification des campagnes, avec deux attentes majeures qui émanent des habitants et qui sont évidentes.
Les demandes principales, c'est sur la démographie médicale, avec de grosses inquiétudes sur la présence de la médecine générale sur l'ensemble du territoire. C'est aussi des questions de transport et de mobilité.
La règle du jeu pour ce projet de réhabiliter les campagnes, c'est un diagnostic, un schéma et un plan d'action.
Alors c'est un cabinet EDATER qui a été retenu par l'État et le Conseil général de l'Aude, et il va s'appuyer à la fois sur des enquêtes auprès des habitants, et aussi des entretiens avec les intercommunalités, les fameux opérateurs dont je parlais à l'instant, tout au long des 5-6 mois qui viennent.
C'est un budget de 80 000 euros qui sera alloué au cabinet Edater pour ce diagnostic qui démarre. La préfecture et le conseil général pourvoient. Et pour ce qui est de l'application du plan dans quelques mois, ce sont donc les nouvelles intercommunalités qui en seront chargées. On écoute M. Lefranc, le préfet de l'Aude.
Les intercommunalités vont avoir plus de compétences, donc plus de moyens. Elles vont être en mesure, il y en a 11 dans le département, je vous le rappelle, hein, 9 communautés de communes, 2 communautés d'agglomération. Elles sont appelées de par la loi à prendre de plus en plus de compétences, donc elles vont être en situation aussi de construire ces réponses avec des opérateurs. C'est une première pour l'autre, c'est une première en région Languedoc-Roussillon, et donc on espère beaucoup pour démarrer dans les meilleures conditions possibles ce schéma départemental.
Vu le poids financier induit par ce projet de réinvestissement des déserts français, heureusement que les nouvelles intercommunalités sont plus étendues, donc plus puissantes économiquement. Le préfet de l'Aude, quant à lui, est parfaitement motivé pour lancer des innovations qui, d'ailleurs, pour certaines, n'ont pas attendu le plan pour démarrer.
Les services de la caisse d'allocation familiale qui, je vous le rappelle, mais vous le savez, il n'y a pas très longtemps, a mis en place, et c'est une première en France, un visio-guichet, donc c'est déjà une forme de réponse à une problématique d'accessibilité, hein, donc pas d'accueil physique, mais un accueil, un e-accueil. Voilà. Donc c'est un regard global. Ça va démarrer par une démarche de questions posées directement à la population, et puis des questions aussi qui seront adressées aux élus en charge de ces collectivités. Donc il faut que les opérateurs, notamment de la partie service marchand, soient convaincus de l'intérêt pour eux par de meilleures conditions d'accueil, de développer tel ou tel service dans telle ou telle partie du département, donc construire ce schéma.
Distributeurs bancaires à foison, poste essence automatique, boulangerie réouverte, médecin généraliste à proximité, le schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sera présenté à l'automne 2015.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Thomas Dimet, le président national des jeunes agriculteurs, s'est rendu cette semaine à Châteauneuf-de-Randon, en Lozère, pour venir rencontrer les jeunes agriculteurs du département. L'échange portait sur la nouvelle PAC et les bénéfices pour les jeunes installés. Nouvelle PAC sur laquelle les jeunes agriculteurs ont défendu leur position. Thomas Dimet.
Sur lesquels le jeune agriculteur a défendu des positions fortes, notamment une réorientation des aides vers les actifs, vers les hommes et les femmes qui travaillent sur les exploitations, mais aussi une réorientation des aides vis-à-vis de l'installation, hein, donc c'est tout ce qui est autour du top-up jeune, donc c'est quand même une première au niveau européen d'obtenir des aides fléchées pour les jeunes qui s'installent. Alors c'est une vraie victoire, ce qu'on a construite au niveau français, mais aussi avec toutes les autres organisations au niveau européen. Donc c'est bien pour discuter de ça, pour aussi voir les autres leviers que les jeunes peuvent actionner sur leurs exploitations, notamment les majorations par rapport aux aides couplées, hein, je pense aux aides sur les ovins, aux aides sur le lait, etc. Donc c'est toutes des positions sur lesquelles le jeune agriculteur a été force de proposition, sur lesquelles on a obtenu des choses qui sont encore en cours de finalisation, hein, parce que tout n'est pas encore complètement acté, mais je pense que sur ce qu'on a déjà comme retour notamment de l'administration, il y a déjà des belles avancées pour les jeunes qui souhaitent s'installer et qui sont déjà installés, notamment en Lozère.
Et sujet épineux du moment, il a été également question du loup. L'État, voire l'Europe, doivent aller plus loin sur la question.
On a obtenu de pouvoir prélever 36 loups, parce que les attaques sont intolérables, parce qu'aujourd'hui, il y a 30 départements qui sont concernés par la problématique du loup, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de descendre nos brebis des estives un mois avant, et tout ça, ça pénalise l'indépendance fourragère des agriculteurs, ça pénalise le revenu des agriculteurs, et ça, on peut pas l'accepter. Et là-dessus, il faut que les politiques de prélèvement soient à la hauteur. On va continuer à expliquer ça à notre administration, à nos politiques. On a notamment un rendez-vous le 12 novembre avec Ségolène Royal, où on lui redonnera l'exemple de la Lozère, on leur expliquera les moyens à mettre en œuvre. On a aussi un rendez-vous le 7 novembre avec le directeur général de l'environnement au niveau européen, Monsieur Falkenberg, pour que au niveau européen, la directive Habitat puisse évoluer. Là-dessus, c'est aussi des choses qu'on dit à nos gouvernants, notamment le ministre de l'Agriculture, qui s'est engagé à faire du lobbying, notamment auprès des ministres espagnols et italiens qui sont aussi impactés par le loup pour qu'il y ait une position forte des pays impactés par le loup et qu'on puisse faire évoluer les choses, notamment au niveau européen, parce que ça joue aussi à ce niveau-là.
C'était un sujet de Ludovic Terol de 48FM. Direction les Cévennes et la commune de La Salle pour parler cinéma. En effet, chaque année a lieu au mi-mai dans ce village le festival du film documentaire qui attire plus de 5000 spectateurs. La Salle a aussi été récemment le théâtre d'un tournage d'un téléfilm réalisé par le maire du village. Henri de la Tour, réélu pour un second mandat au printemps dernier, est en effet documentariste de formation et au cours de l'année 2013, il a proposé aux Lasalloises et aux Lasallois de participer à la création d'un film. De là est né Bien de chez nous, fable sur la vie rurale, dénonçant notamment une certaine xénophobie et défendant l'ouverture d'esprit. La particularité du film est qu'il a été tourné entièrement à La Salle et par des bénévoles du village. Henri Delatour explique au micro de Rémi Goujon de Radio Escapade où en est ce projet.
On a trouvé un distributeur il n'y a pas longtemps, là il y a 15 jours, c'est assez récent. Le film lui-même est fini depuis l'été, hein. Mais on n'avait pas de distributeur, donc pas de numéro d'agrément, enfin tout ça, voilà. Donc ça c'est un peu long à mettre en route, il va y avoir des avant-premières fin novembre. À Diago, on en fera peut-être d'autres dans les Cévennes, puis elle y allait à Cinéco, je pense que Cinéco, j'espère que Cinéco va le prendre. Et puis sinon, il y a aussi donc derrière toutes les diffusions de salles commerciales normales qui viendront s'ajouter derrière. On est diffusé aussi le 21 novembre à Newcastle. On est trois à monter à Newcastle pour le montrer aux Anglais. Parce que c'est des gens de Newcastle qui sont venus à La Salle et qui ont trouvé le village sympathique, qui sont eux-mêmes un groupe associatif de des films, des photos et des trucs comme ça, donc ils sont intéressés à ce qu'on faisait, on leur a montré le film et ils ont dit banco et voilà. Et sinon l'avant-première sera sans doute au Diago de Montpellier, l'avant-première publique quoi, parce qu'ici on a fait des avant-premières mais c'était public restreint à La Salloie quoi, parce que comme c'est un film très, comment dire, atypique, difficile de mettre dans une case, donc je pense qu'il doit y avoir beaucoup de gens frileux qui doivent dire oh ben non, on nous propose un blockbuster, si je bloque La Salle avec ce film-là, j'aurais pas, voilà, il y avoir des raisonnements comme ça évidemment, donc toutes les salles, non ça me paraît un peu beaucoup, mais déjà qu'on soit bien diffusé, qu'on puisse récupérer un peu de sous pour en faire un deuxième, ma foi, voilà, là on serait heureux, voilà, c'est tout ce qu'on demande.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon.
Autre film documentaire avec les gitans qui sont à l'honneur sur le petit écran. Ce sont notamment des familles agatoises et biterroises qui ont été filmées dans ce documentaire, signé Thierry Patrac, lui-même gitan, et Jacques Touvenot. Un 52 minutes à voir ces jours-ci sur la chaîne Public Sénat. Extrait de ce documentaire intitulé « Quand je serai grand, je serai flamenco », suivi de l'interview de Thierry Patrac par Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault.
Toute cette histoire, tous ces voyages, tout ce qu'ils ont vu les vieux, nous on a tout ça dans notre sang.
Je crois qu'il n'y a pas de gens qui souffrent plus de l'injustice et du racisme non dit que les gens du voyage et les gitans.
Eh bien, vous savez, dans la réalisation de ce documentaire, vous vous êtes rendu compte que le titre c'est « Quand serait grand serait flamenco ». Et puis je me suis rendu compte qu'au niveau de la communauté gitane sédentaire, qu'on est vraiment vraiment aimé pour notre musique. Hein. Et puis j'ai réfléchi un peu à tout ça, j'ai dit on sait faire autre chose que de la musique. Hein. Alors l'objectif de ce documentaire, c'est vrai que le documentaire c'est une grosse partie, c'est musical, mais on avait autre chose à faire montrer que la musique. Hein. C'est pouvoir laisser un peu les gitans sédentaires s'exprimer d'une autre façon. Et ils ont mis tout leur cœur sur tous les problèmes qu'on peut rencontrer au niveau de la société quoi, en général.
Quel genre de problème vous rencontrez encore et que vous avez voulu exprimer ?
Eh bien, déjà, on est en 2014, déjà, on se pose la question sur les gitans. Sur les gitans, on ne sait pas vraiment qui on est. C'est pour ça que le documentaire qui est important de 52 minutes, c'est... Toutes les questions qui se posent les gens, c'est d'avoir de leur donner un maximum de réponses à leurs questions. Et vous savez, on parle beaucoup de choses dans la télé, etc. Mais même qu'on est sédentaire, qu'on est français avant tout, on souffre aussi encore en ce moment de discrimination. Je sais pas, on en passe tellement de choses que si vous voulez à force de voir comment ça se passe au niveau de la communauté gitane sédentaire, on fait même plus attention. On a l'habitude de parler mal de nous sur beaucoup de choses. Et surtout, quand un gitan fait, comme tout peuple, même comme le français, comme n'importe qui, quand on fait quelque chose de mal, on sait féliciter les gitans. Mais quand un gitan fait quelque chose de bien, on ne dit jamais que le gitan a fait quelque chose de bien.
Quand je serai grand, je serai flamenco de Thierry Patrac, à voir sur la chaîne Public Sénat vendredi 31 octobre à 12h et jeudi 6 novembre à 18h. Voilà, c'est tout pour ce carnet de région, un magazine réalisé par les radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même radio.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.